interne dans la société.
On n'est pas des cadeaux.
La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas.
Sur Radio Canu, la plus...
Enculé. Oh.
Enculé.
Oh. Enculé ou enculé.
Enculé.
La plus... Des radios.
Entre le stade, le PMU et le Bricorama, ils sont quand même très ghettos, les hétéros.
On n'est pas des cadeaux.
Émission transpédéguine et féministe.
Est-ce qu'on appartient à l'humanité? Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme?
C'est pas en demandant poliment, vous ne pourriez pas nous enlever de la nosographie psychiatrique, on va l'obtenir. C'est en tapant des points sur la table, c'est en occupant les lieux. Personne ne nous écoutera si on ne montre pas à la société la violence qu'elle fait souffrir.
L'hétérosexualité, c'est aussi naturel que l'enclos électrique dans lequel on parque les vaches.
Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, dans l'émission On n'est pas des cadeaux, l'émission transpédéguine et féministe. Et ce soir, on va, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, parler de danse. Alors voilà, on se place dans la grande historique de On n'est pas des cadeaux qui fait des émissions sur la danse. On pourrait dire que c'est le troisième volet de l'émission Move Your Body. C'est assez adapté avec ce début de printemps qui nous promet de belles soirées où nous allons prendre du plaisir avec nos corps en dansant ou en faisant d'autres choses. C'est bien vous qui voyez. Mais j'ai plutôt choisi de nommer cette émission « Si je ne peux pas danser, alors je ne prendrai pas part à votre révolution ». Parce que la danse, c'est souvent une pratique qui est assez dénigrée. On a pu s'en apercevoir dans le petit montage des chansons qui parlent de danse. C'est que c'est quelque chose qui nous permettrait d'oublier. J'aime plutôt l'idée de danser jusqu'à la fin du monde. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de... qui peut être vu comme quelque chose d'assez futile. Et moi, je ne peux pas vraiment m'empêcher d'y voir une petite misogynie intégrée, parce qu'il s'avère que la danse, et du coup, ce qui pourrait être communément appelé une pratique corporelle pour faire des jolies choses en rythme, eh bien, ça ne fait pas partie des choses qui sont considérées comme le plus essentiel, sauf que ben, je compte bien faire cette émission et pouvoir par l'occasion partager mon plaisir de la danse et montrer en quoi cette pratique a un potentiel clairement révolutionnaire. Alors, je suis allée demander à des camarades qui dansaient, c'est-à-dire que bon, bah, j'ai fait des soirées où je dansais, et puis j'ai essayé de voir les quelques copines que je sentais qui aimaient danser, et ensuite je leur ai proposé de répondre à quelques questions sur qu'est-ce que ça leur apportait, la danse. Bonne écoute.
Quand est-ce que je danse ? Pas souvent. Je danse quand je fais la fête avec des potes, surtout.
Quand je danse, ça fait que ça bouge à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et ça fait un truc de libération où je sens que je peux faire des mouvements que je ne ferais pas habituellement. Et ouais, je me sens comme si j'évacuais des toxines en même temps que j'en ingurgite, parce que c'est quand même souvent lié à une prise d'alcool.
Des fois, je danse avec mon ombre.
Mais quand je me sens plutôt bien, ou quand ça me fait me sentir bien, parce qu'il y a des fois, ça fait ça, la danse aussi. Et du coup, ça me donne vachement de puissance. Je me sens capable de plein de choses. Je me sens plein. J'ai l'impression qu'il y a plein de... que la musique me passe à travers et qu'il se passe quelque chose dans mon corps avec ça, quoi. Qu'il y a quelque chose qui se passe entre moi, la musique, l'espace que j'ai autour de moi, parfois les gens. En tout cas, parfois les gens, je dis quand je suis en boom plutôt. Quand je danse en très grand groupe, par exemple, si ça fonctionne bien, moi, la musique, les gens autour, c'est juste ça m'amène à la transe, je pense. Ça fait des trucs très très forts d'appartenance, mais au sens chouette du terme, hein, pas le truc où on est... tu vois, aliéné, mais plutôt le truc, au contraire, on se sent une force collective, là, c'est très très fort. Et après, ça donne de la joie, vachement. Même pendant, hein, mais du coup, ouais.
Et moi, je crois que je suis contente de sentir mon corps qui bouge, et... je suis un peu les mouvements qui ont envie de se faire. Des fois, je danse sans musique, des fois, je danse avec de la musique, mais quand je danse sans musique, il y a aussi les sons qui m'entourent qui peuvent devenir de la musique. Enfin, en fait, c'est comme une sorte de partenaire avec qui je danse. Et je prends aussi beaucoup la danse comme un massage que je me fais. Je danse pour me faire du bien, et ça me permet de réaliser que j'ai un corps et de le découvrir.
J'aime danser parce que quand je danse, j'arrête de penser. Et c'est assez agréable d'avoir des moments où on arrête de penser. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a quand je danse, quand je chante et quand je fais du sexe.
Oui, alors j'avais inventé une petite danse il y a quelques années. Alors ça, c'est pratique parce que ça marche sur toutes les musiques. En fait, avec un pied, j'avance et du coup, ça fait le temps. Et après, je bouge les fesses derrière. Et après, je bouge l'autre pied sur l'autre temps et je bouge les fesses derrière.
Mais je crois que j'imagine un peu, bon, peut-être pas précisément parce que j'ai pas une connaissance anatomique incroyable, mais j'imagine mes muscles qui bougent les uns par rapport aux autres, les fibres qui se tendent ou qui se relâchent, et les os aussi, comment ils touchent le sol. J'aime beaucoup danser au sol justement pour cette histoire de massage que je me fais à moi-même.
Alors, nous sommes de retour dans les studios de Canu 102.2 pour l'émission On n'est pas des cadeaux, transpédigouine et féministe, et ce soir nous parlons de danse. Nous parlons de danse, mais nous parlons de danse sociable. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des enjeux d'expertise, on n'est pas sur des enjeux de spectacle. Je ne vais pas vous décrire par le menu comment danse Pina Bausch, même si je considère que c'est intéressant ce qu'elle fait. Mais là, c'est un peu la pratique quotidienne, en fait, ce qu'on fait quand on est en soirée, le samedi soir ou pas. Voilà. Et moi j'avais envie de donner ce que je considère comme être une définition qui me convient de la danse. Du coup, danser, c'est prendre du plaisir à sentir les mouvements avec son corps. Et en fait, c'est assez rare dans nos vies qu'on ait des moments où on a une conscience de notre corps. Je pense qu'il y a des personnes qui retrouvent ça par la méditation. Moi, je crois que j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus qui me permette un peu plus de pouvoir extérioriser que la méditation. Et du coup, je pense j'ai beaucoup utilisé la danse comme espace de catharsis, quoi. C'est-à-dire pour sortir les tensions et pour pouvoir en faire quelque chose de créatif. Alors, il y a quand même un défi à parler de danse, parce que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qu'on peut regarder, et en fait, moi je voulais prendre du son de moments de danse, mais en fait on n'entendait que la musique, parce qu'on n'entend pas comment le corps est tapé à un certain rythme. Enfin, c'est un enjeu en fait de pouvoir décrire une pratique qui est une pratique physique. Donc j'ai choisi de demander à des personnes comment est-ce qu'elles dansaient, et je vais me prêter au jeu aussi, parce que sinon c'est pas drôle. Alors moi, ça fait quand même longtemps que je danse, et à un moment j'ai commencé à faire de la danse contact improvisée. Alors c'est une pratique de danse qui est assez moderne, parce qu'il y a plein de danses qui ont des ancrages historiques un peu plus longs, qui ont une histoire conséquente et tout ça. Et du coup, c'est une pratique que je dirais qui vient des années 70. Et ça consiste à faire naviguer les points de contact entre son corps, le sol, les objets et le corps des autres. Alors de l'extérieur, par exemple, il y a des personnes qui disent que ça ressemble à des espèces d'agglomérats de chatons qui se montent dessus les uns les autres. Voilà. Et pour ça, j'allais dans la faculté de STAPS, et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que même si on était dans un espace plutôt libre, du coup, a priori, c'est vraiment faire circuler des points de contact entre les corps. Donc assez régulièrement, on peut se retrouver avec une main, un genou, une tête à des endroits qu'on n'aurait pas prévu que quelqu'un nous touche à cet endroit-là. Du coup, même dans ce contexte qui est assez libre, eh bien, il y avait encore de l'hétéronormativité, c'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal de compétition entre les nanas qui étaient là, en sachant que la plupart des personnes, vu qu'on est dans un domaine qui est dit féminin, qui est pour moi un sport, mais qui n'est pas considéré comme tel aussi, parce que c'est un domaine féminin, eh bien, les femmes étaient en concurrence, et notamment en concurrence pour les quelques gars qui étaient là et qui étaient dans des enjeux, par exemple, de faire beaucoup de portées. Donc, c'est-à-dire de prendre une personne au sol et de l'amener jusqu'en haut. Et pour ça, évidemment, les personnes qui étaient portées n'étaient pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était les personnes qui étaient considérées comme les moins lourdes qui pouvaient être portées. Alors qu'en fait, pour moi, la danse contact, ce qu'on nous apprend, c'est à réaliser un porté sans se faire mal, c'est-à-dire à un moment de faire naviguer nos centres de gravité d'une manière que la personne ne repose plus que sur une ou deux autres personnes, et pour ça qu'importe le poids qu'on fait. Alors j'étais un petit peu déçue, parce que je m'attendais à trouver quelque chose de vraiment très intéressant, et en fait ça l'était pas vraiment. Du coup, j'ai continué à chercher et je suis tombée sur les rencontres de danse contact et politique des corps. Donc c'est quelque chose qui se fait depuis une petite dizaine d'années, et du coup c'est une rencontre internationale féministe et autogérée, où du coup des personnes se retrouvent pour danser pendant une semaine dans différents lieux en Europe. Et ça, c'était vraiment incroyable, quoi. C'est-à-dire de partager une expérience du corps, de partager des moments de convivialité, d'avoir des personnes qui ne sont pas des expertes, qui fabriquent des ateliers sur les questions qu'ils et elles se posent à ce moment-là et les proposent. Et du coup, nous emmènent à des endroits où on n'aurait pas pensé aller. Et tout ça avec des féministes. Du coup, ma petite question autour de l'hétéronormativité, elle allait beaucoup mieux. Voilà. Et il s'avère qu'à cette époque-là, je me disais, peut-être je suis lesbienne, mais je suis pas vraiment sûre. Et puis, ce qui fait que je suis pas sûre, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que je sais pas comment déconstruire ma sexualité, parce que j'ai appris que la sexualité, c'était une bite et un clitoris. Et en fait, là, ben, c'est autre chose qui se passe. Et je sais pas, j'ai pas d'imaginaire. Les imaginaires sont assez pauvres en termes de représentation de sexualité qui serait pas hétéronormative, quoi. Et du coup, je me trimballais ces questions-là en me disant « Ah, mais est-ce que je peux aller dans des rencontres avec des gouines ? Je sais pas, parce que moi, je sais pas comment je me positionne. » Et puis, je me rends bien compte que j'ai le privilège de l'hétérosociabilité et tout ça. Et là, je suis allée à ces rencontres. Et puis, en fait, ces moments de danse, je me suis dit « Mais en fait, si on avait envie, si on appelait ça comme ça, cette navigation des points de contact, ben, en fait, ça pourrait être du sexe. » Et là, du coup, non seulement j'avais un imaginaire, mais j'avais expérimenté quelque chose qui pouvait ressembler à une sexualité non génitale, par exemple, et ça a pas mal débloqué les choses. Voilà. Du coup, j'ai eu une petite aventure cet été-là, et depuis, je me suis dit, oui, je suis lesbienne. Voilà. Et ensuite, j'ai eu envie, donc toujours par rapport à cette question d'improvisation et de navigation des points de contact, un autre des enjeux qui est vraiment la question de comment on propose quelque chose, comment on reçoit quelque chose, comment est-ce qu'on l'interprète. C'est-à-dire, est-ce que si je te pousse à cet endroit-là, tu me résistes, tu dévies, tu me fais tomber, tu m'accompagnes? Et en fait, dans ce monde, c'est assez dur de pas être continuellement en résistance, et en particulier quand on est dans des places minorées dans cette société. Et du coup, moi, j'avais vraiment du mal à me laisser aller, à lâcher prise. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller vers l'expérimentation de la danse à deux, parce qu'au moins, c'est un cadre qui est clair, qui est posé, il y a une personne qui guide, une personne qui est guidée, du coup, il y a une personne qui interprète la musique, il y a une personne qui répond à cette interprétation. Et alors, à ce moment-là, j'ai commencé à danser le tango. Alors, je vais vous faire écouter un morceau de tango qui est l'un des seuls que je connaisse, qui est chanté d'un point de vue de femme. Du coup, c'est Malena qui chante le tango. Et caché au milieu, il y a l'interview d'une personne qui nous raconte qu'est-ce qui se passe quand il y a de la danse à deux.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A Yuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo.
Et puis après, dans la communication à deux, quand ça fonctionne bien une danse, c'est... ça fait planer, quoi. Ça fait planer, ça fait l'impression d'être ultra concentré sur quelque chose de très très précis et en même temps extrêmement présent à tout ce qui se passe autour et à jouer avec la musique, faire correspondre des choses, en même temps l'impression d'avoir de suivre vachement ce que l'autre propose, ce que la musique propose. Et quand tout ça communique, c'est assez magique, hein. Je trouve que ça... ouais, ça, c'est addictif, quoi. C'est carrément addictif. C'est si, du coup... Et des fois, j'oublie que c'est addictif et que j'adore ça, mais hop, je refais un moment de danse et c'est incroyable, quoi. Et il se passe pas du tout les mêmes choses quand je suis et quand je mène. Et en ce moment, j'aime beaucoup mener. la danse à deux. Et en fait, j'aime énormément, je crois, j'aime commener, donc j'aime bien être avec des gens avec qui je vais proposer quelque chose, puis paf, c'est la personne d'autre qui va proposer, et ainsi de suite, et ça c'est vraiment très chouette aussi. Mais j'aime aussi beaucoup amener la personne que j'ai avec moi dans quelque chose que je propose avec la musique qu'on entend. Et ça aussi, c'est très très fort dans comment on peut proposer quelque chose, que l'autre comprend quelque chose, pas forcément ce qu'on attend, et du coup, paf, ça nous amène à créer quelque chose d'autre. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être comme en improvisation en musique, quoi. Quelque chose que tu crées sur le moment. Tu es en train de créer une œuvre d'art. Puis je pense, j'ai une impression de beauté énorme, quoi. Quelque chose de très beau qui se passe avec la personne, qui se passe pour les gens qui regardent, parce que souvent on est regardé quand même quand on danse, parce qu'il y a toujours des gens qui sont extérieurs. Et quand t'as une belle danse, souvent, c'est très beau pour toi, très beau pour la personne avec qui tu danses, mais c'est aussi très beau pour les gens qui te regardent. Donc c'est, des fois, ça fait aussi ça qui est chouette, des fois, des gens qui viennent te voir et qui disent « c'est beau ». Voilà, donc il y a un effet à la fois pour soi et aussi dans le fait d'être regardé. Je pense que j'aime aussi être regardé quand je danse, du coup. Et j'aime bien regarder les gens aussi.
Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 dans l'émission On n'est pas des cadeaux. Et ce soir, on parle de danse. Enfin, je parle de danse parce que ce soir, c'est moi qui ne suis pas un cadeau. Et je vous parle de danse à deux. C'est un peu surprenant de le faire seul, mais bon, voilà. Moi, ce qui m'a intéressée dans le tango, c'est que c'est une danse d'improvisation. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est guidé, eh bien, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Du coup, l'enjeu de la danse, quand on est guidé, c'est d'être sur un point d'équilibre et de résistance qui permet d'être ouverte à n'importe quelle possibilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres danses à deux, par exemple la valse, où en fait chaque personne sait quels sont les pas qu'il et elle vont produire. Mais le tango, on ne sait pas quoi. Il y a des personnes qui disent qu'il faut attendre 10 ans pour savoir marcher en tango. Ça fait beaucoup 10 ans. Et en même temps, moi, je me rends compte de comment la qualité de ma marche, mais même dans la rue, la manière dont je prends l'espace, elle s'est modifiée par cette pratique de danse. C'est-à-dire que un des enjeux, c'est d'être assez ouverte quand on guide pour pouvoir donner les informations, pour pouvoir clarifier, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, dans quel sens on va aller. Et du coup, ça implique d'ouvrir les épaules, de dégager son torse. Et c'est quelque chose que bah, jusque-là, j'avais pas trop appris, ou j'avais un peu appris dans des stages d'autodéfense. Du coup, c'est des postures de confiance en soi. Et du coup, c'est assez marrant de marcher dans la rue avec cet imaginaire de tango, avec ce rythme, même des fois avec la musique. Et du coup, de me rendre compte de comment j'occupe l'espace d'une certaine manière, en fait. Comment l'espace m'appartient. Et c'est quelque chose qui est assez agréable à sentir parce que c'est pas tout le temps comme ça. Alors voilà, je pratique le tango et bon, bah, j'avais un peu envie de parler de réappropriation culturelle parce que du coup le tango c'est une danse assez récente aussi par rapport à la valse par exemple, qui est une danse populaire qui a été fabriquée au moment de l'immigration en Argentine. Et du coup, c'est un mélange de plein de choses et de plein de personnes différentes qui ont fabriqué ce rythme, cette danse et cette manière de bouger, qu'on pourrait qualifier d'assez dramatique. C'est-à-dire vraiment, quand on voit des personnes danser du tango, on a vraiment l'impression qu'ils ne se prennent pas pour n'importe qui, mais c'est aussi important d'avoir des moments où on ne se prend pas pour n'importe qui, quoi. Parce qu'en fait, on n'est pas n'importe qui. Voilà. Donc par rapport à la question de la réappropriation culturelle, l'histoire du tango, bon, tout le monde n'est pas vraiment d'accord sur c'est quoi, qui c'est qui a inventé, il y a des différentes querelles de chapelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une danse populaire, que la bourgeoisie et l'aristocratie en Argentine ne voulaient pas pratiquer le tango parce que c'était une danse qui était mal vue, qui se dansait dans les bidonvilles, dans les lieux d'arrivée d'immigrants. Et du coup, la bourgeoisie ne voulait pas toucher à ça, ou alors un peu seulement les fils qui allaient s'encanailler dans les boîtes et qui allaient payer des danseuses pour 3 minutes de danse, quoi. Et du coup, pour que la bourgeoisie se mette à danser cette danse-là, eh bien, il a fallu que l'Europe, et en particulier Paris, se mette à pratiquer le tango. Du coup, ça a vraiment participé en fait à embourgeoiser cette danse-là. Et maintenant, si on imagine une danse populaire, c'est pas du tout le tango qui nous vient à l'esprit pour représenter l'Argentine. Du coup, comment la sélection qu'on a en Europe de certaines choses qu'on va considérer comme valides et qu'on va prendre pour nous, eh bien, ça fait aussi un retour sur comment est validé par les sociétés bourgeoises ceci. Un autre exemple, moi je danse le lindy hop, du coup c'est une danse qui se danse sur du swing, c'est une danse américaine qui date des années 20, et c'est une danse qui est faite par, qui a été fabriquée par des afro-américains. Si on regarde maintenant, moi par exemple mon cours de danse, toutes les personnes sont blanches, les profs sont blancs, il y a vraiment, les vidéos sur YouTube sont faites par des trentenaires blancs un peu branchés. Et du coup cette histoire, en fait cette création de la danse et les enjeux de lutte par rapport à ça, eh bien ils sont pas du tout valorisés, ils sont complètement niés par cette appropriation culturelle. Une fois que j'ai dit ça, mais ça m'empêche pas de continuer à danser ses danses et de continuer à aimer ce qu'elle fabrique pour moi et pour les autres personnes avec qui je danse. Cet été, j'ai rencontré dans un bar une personne qui danse le tango et je lui ai demandé de me raconter un peu ce qu'elle y trouvait, comment est-ce qu'elle s'y est mise. Et elle s'est prêtée au jeu et je trouve que les réponses sont vraiment extrêmement intéressantes. Et j'espère qu'elle écoute et je la remercie d'avoir prêté sa voix pour ça. La musique qu'on va entendre avec, c'est une milonga. Donc la milonga est un des 3 rythmes qu'on trouve dans le tango. Voilà. En tango, il y a le tango qui est un rythme binaire, la valse qui est un rythme ternaire et la milonga qui est un peu plus chafouine. Je ne sais pas comment la qualifier. Bah vous allez voir.
Et ben j'ai essayé plein de genres de cours de danse. J'ai essayé des pratiques de danse plus dans le hip-hop, la house. J'ai essayé la danse contemporaine. Enfin j'ai essayé plein de trucs et en fait. J'arrivais pas à apprendre des chorégraphies, ça m'ennuyait assez vite et puis j'accrochais pas. Et par contre, j'ai fait des danses de salon quand j'étais à la fac et c'était pas des danses hyper vivantes, tu vois, on apprenait le cha-cha-cha, la valse et le rock'n'roll. Mais il y avait des jeunes, c'était assez cool, il y avait un groupe assez chouette et puis ça m'avait vraiment plu en fait. Et je pense que c'est parce qu'on n'apprend pas un truc chorégraphié, on apprend pour danser avec quelqu'un. Et donc c'est plus l'enjeu, c'est plus la rencontre et de communiquer quoi dans la danse. Et ce qui m'a plu de prime abord, c'est que le prof, en fait, il nous faisait vachement travailler dans une approche de conscience corporelle. Et puis le tango, c'est une danse d'improvisation, il n'y a pas de base. Donc en fait, tu apprends un langage corporel pour communiquer avec l'autre. C'est vraiment comme si tu apprenais une langue, en fait. Et tu apprends à sentir tous les endroits de contact avec l'autre, tous les endroits où tu te touches, mais aussi le sol, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent par le sol, dans l'ancrage, et donc sentir comment tu te reposes dans le sol et avoir une posture un peu détendue, enfin relâchée, pour que l'information elle puisse passer dans les deux sens et inversement sentir où est l'autre. Et tout ça, ça m'a fascinée en fait. Parce qu'en fait, au début, moi, j'ai pas été en bal la première année parce que ça m'angoissait trop. Enfin, je pense que j'avais dû y aller une ou deux fois et j'avais pas dansé et puis j'étais plus jamais retournée. Et puis en fait, je suis partie habiter en Argentine, donc c'est l'endroit d'où vient le tango, enfin à Buenos Aires particulièrement. Et en fait, je suis pas partie pour ça spécialement à la base, mais je débutais, donc à un moment je me suis vraiment remise à cette danse et tout, je prenais des cours, puis j'étais en bal là-bas, et j'étais assez fâchée avec ce truc des codes, mais parce que je pense qu'il y avait aussi une question d'habitude, par exemple sur le fait que dans le tango on s'invite au regard en fait, et donc ça fait qu'on va pas voir quelqu'un, salut, tu veux danser? Enfin, ça peut se faire, mais en vrai, ça se fait pas trop. Mais quand on connaît ces codes d'invitation, on se permet pas de faire ça. Et donc, en fait, c'est plutôt... on regarde autour de soi et puis on va essayer d'avoir le regard ouvert à ceux qui vont avoir envie de danser avec soi, et inversement, on va regarder les gens avec qui on a envie de danser. Et ça permet d'inviter des gens qu'on connaît pas, qui peuvent être assez loin de nous, et puis ça permet de se prendre des moins grosses claques aussi si on n'a pas envie de se lever et de traverser toute la salle pour inviter quelqu'un, et de se prendre un refus par exemple. Et donc moi maintenant ces codes je les apprécie, mais à l'époque je les rattachais vraiment à des codes de séduction. J'étais pas du tout à l'aise avec ça. J'avais vraiment l'impression de devoir me mettre dans une position d'attente et d'être bien disposée sur ma chaise pour qu'on puisse bien vouloir venir m'inviter. Et donc ça m'allait pas du tout en fait. Donc En fait, je passais mon temps les yeux baissés et je dansais pas. C'était très triste. Et puis en plus, j'avais pas du tout envie de m'habiller en fille et de mettre des talons. Et donc en fait, je venais en basket et en pantalon. Mais j'étais un peu fâchée avec ça. Donc je pense qu'en fait, c'est pas le fait que j'étais en pantalon ou en basket qui faisait que je dansais pas. C'est que j'étais pas à l'aise en fait. Et donc en fait, je pense qu'à un moment, j'ai pris confiance en moi, et un jour j'étais en bal et là j'avais vraiment envie de danser. J'étais pas là en train de me dire que je dansais mal et tout. Et donc j'y suis allée, vraiment présente. Donc en général j'étais debout et puis j'avais vraiment envie de danser, donc je regardais les gens avec qui j'avais envie de danser, et puis j'étais dans une attitude plus dynamique, et donc je me sentais pas dans cette position passive que j'arrivais pas à comprendre en fait avant. Et puis les codes, petit à petit, quand tu traînes dans un milieu, tu les apprends, et donc ces codes d'invitation je me les suis appropriés. Et par rapport aux codes, le fait que les filles elles sont hyper féminine en général, et puis les mecs qui s'habillent d'une certaine manière, et puis que t'as quand même l'impression qu'il y a un truc général où les filles elles attendent sur leur chaise que les mecs viennent les inviter, moi je fais pas comme ça, mais ça va très bien. Enfin, je veux dire, en fait je pense qu'à partir du moment où j'ai pris confiance en moi dans la danse, il y avait plus autant d'enjeux avec ça en fait. Mais en fait à Buenos Aires il y a deux milongas, il y a une milonga queer et une milonga qui est plus étiquetée gay en fait, et moi j'allais pas dans cette milonga parce qu'on m'avait dit, je débutais à cette époque et puis on m'avait dit que c'était que des hommes et que ça dansait super bien, et donc ça m'impressionnait un peu, donc j'avais pas envie d'y aller. Et donc j'allais à la milonga queer où il y avait une ambiance quand même vachement plus chouette qu'ailleurs, c'était assez bienveillant, mais comme j'avais vraiment envie de danser tous les jours, à un moment je me suis mise à sortir danser tous les soirs, j'allais partout en fait. Donc en fait j'ai plutôt une pratique où j'ai dansé dans tous les milieux, et donc beaucoup des milieux où en fait ça peut être assez pesant, les codes de genre. Mais en fait j'ai une telle passion pour cette danse que j'étais prête à tout. Même quand je suis rentrée en France et que j'allais danser à Paris, là-bas il y avait une ambiance très difficile, pas du tout bienveillante, où les gens ils te connaissent pas, ils veulent pas danser avec toi et tout. Et en fait, j'avais vraiment envie de danser, donc les gens chouettes, tu les rencontres à force, et puis, Et puis, ouais. En fait, moi, je me suis un peu toujours dit que fallait un peu se battre. En fait, moi j'ai commencé dans un cours où c'était plutôt. On apprenait plutôt le rôle qui était rattaché à son genre social, enfin, genre les filles qui sont guidées, les garçons qui guident, mais en fait c'était un peu souple. Comme il y avait plus de filles que de garçons, bah, en fait on faisait souvent les deux rôles parmi les filles. Puis moi j'aimais vraiment. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup guider, donc en fait je guidais souvent dans la première année, le cours débutant. Et puis il y en avait qui guidaient moins parce qu'elles n'avaient pas trop envie. Enfin, c'était pas trop questionné. Enfin, je veux dire, c'était plutôt la norme, quoi. Mais en même temps, c'était pas figé non plus parce qu'il y a des cours où les filles elles restent assises tant qu'il n'y a pas de garçons qui sont là. Et puis, ben, en fait, quand je suis partie en Argentine, je me suis dit j'ai vraiment envie d'apprendre à guider. Donc je prenais des cours où j'y allais pour guider, je faisais que ça. Et puis après, je restais à une pratique et puis j'essayais de faire que guider. Et en fait, je trouvais ça hyper laborieux. Donc j'ai pas vraiment réussi à guider en balle pendant plusieurs années, pendant peut-être 2-3 ans. Et puis un jour, j'ai eu un peu un déclic. J'ai dansé avec une fille à la Milonga Queer qui est à Paris. Et puis en fait, j'ai beaucoup aimé danser avec elle dans les deux rôles. Et puis là, je suis rentrée dans ma petite ville de province et où je m'ennuyais vraiment en niveau tango, en fait. Et puis là, je me suis dit, ouais, mais je vais me mettre à fond à guider. Et puis là, j'ai fait que ça, en fait. Pendant des mois, je me suis mise à fond. Et en fait, au début, il y a un côté hyper laborieux. Enfin, c'est très ingrat, en fait. Hein. En fait, le fait d'être guidé au début, ça paraît très simple d'approche, et alors que guidé au début, ça paraît hyper dur. Et c'est hyper dur parce que déjà quand t'apprends dans un cours, bah ensuite t'arrives en balle, t'es pas du tout avec une personne qui est en train de travailler la même chose que toi, donc en fait ça marche pas ce que tu fais. Et puis t'as la musique, faut gérer les gens autour, il y a plein de trucs très stressants.
Beaucoup de responsabilités.
Et ouais. Et donc au début c'est hyper dur, mais en fait, si tu t'accroches bien en 2-3 mois ou 4 mois, je pense que t'arrives à te sentir, à te détendre, à te sentir plus en confiance. Faut passer cette étape, en fait, faut vraiment s'accrocher et essayer de pratiquer hyper régulièrement. À un moment, on commence à prendre du plaisir, en fait. Et en fait, après, je trouve que ça vient très vite. Alors que, par exemple, et donc maintenant, avec du recul, je trouve que le rôle d'être guidé, ben, en fait, je le trouve beaucoup plus dur, en fait. Parce que t'es obligé de plus t'adapter dans la brasso. Enfin, la brasso, c'est la manière dont on va se rencontrer au niveau du haut du corps. Enfin, c'est la manière de se tenir, de s'enlacer, quoi. Si on devait donner une traduction. En fait, quand t'es guidé, tu dois plus t'adapter, t'es à une posture qui est un peu différente, t'es un peu plus sur l'avant, donc en fait t'es moins confortable, puis tu choisis pas les pas, le rythme, etc., même si tu peux proposer, enfin, donc en fait c'est hyper dur d'être guidé. Avec des années de recul, bah, je trouve que en fait c'est beaucoup plus dur, ce rôle-là. Et donc ouais, bah en fait au début moi j'ai guidé que mes super amies qui étaient hyper bienveillantes et que genre je savais qu'elles allaient pas être saoulées que je fasse n'importe quoi. Et puis en fait petit à petit j'ai commencé à inviter des filles que je connaissais un peu mais qui étaient moins proches de moi, et j'invitais que des filles par contre. Et pas parce que en fait, bah, dans la ville où j'étais, c'était une petite ville, il n'y avait pas trop de mecs qui se faisaient guider. Et puis en fait, par la suite, il y a souvent eu des. Comme je guidais des fois en balle, il y avait des garçons qui venaient me voir qui ne savaient pas très bien être guidés, qui me proposaient de les inviter. Puis moi, j'étais pas hyper. J'avais pas une très bonne stabilité et tout. Puis à chaque fois, c'était très dur physiquement parce que quand on débute, on gère moins son poids, on peut être plus lourd. Et ça faisait un truc qui était dur, en fait, physiquement. Et. Puis en fait, j'aimais pas trop parce qu'en fait, je guidais que des garçons qui se disaient que c'était un truc simple et puis qui prenaient pas de cours et qui apprenaient pas, en fait, par ailleurs, qui se disaient ils vont juste se faire guider une fois de temps en temps en balle. Et en fait, par contre, quand j'ai guidé des gens dans des milieux plus queer où là, bah, y a des mecs qui ont une vraie expérience d'être guidés, bah là, je trouve ça chouette, mais ça m'arrive pas hyper souvent. En fait, je préfère guider des filles. Je sais pas pourquoi. En fait, oui, moi, ça n'a pas à voir avec le sexe, la danse. Ça n'a rien à voir. Par contre, je pense qu'on... Moi, j'ai l'impression qu'on peut vivre des choses...
Avec les mouettes.
Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on peut vivre des choses très fortes, qu'on peut vivre, enfin, de l'ordre de, je sais pas, d'une sorte d'harmonie corporelle qu'on peut trouver dans de la sexualité, mais c'est pas de la sexualité, c'est autrement, enfin, je sais pas, comme... Enfin... Puis c'est vraiment des rencontres humaines, comme quand on est dans un bar et qu'il y a des gens, enfin dans un bar ou n'importe où, enfin je veux dire qu'il y a des gens avec qui c'est hyper simple de se rencontrer, tout de suite on a plein de choses à se dire, puis il y a des gens avec qui c'est un peu plus difficile, on est là, on cherche, on parle de la pluie et du beau temps, et en fait c'est pareil dans la danse, il y a des gens avec qui tout d'un coup c'est hyper fluide, et puis il y a des gens avec qui bah, c'est un peu plus difficile de se rencontrer, mais c'est normal en fait, enfin c'est vraiment, pour moi c'est pareil que la conversation. Mais donc en fait, oui, juste par rapport à ce truc des invitations, en fait à un moment quand j'ai commencé à prendre plus confiance en moi et que j'étais dans des événements un peu à l'extérieur de l'endroit que je fréquentais au quotidien, et ben j'ai commencé à inviter des gens, des filles que je connaissais pas. Mais donc moi j'arrive pas trop à inviter avec la mirada, donc c'est le code d'invitation dans le tango, par le regard, parce que comme je suis une fille, ben on me considère pas comme une personne qui guide en fait. Donc en fait souvent je vais voir les personnes pour leur dire est-ce que tu veux danser, et en fait l'idée de la mirada c'est que tu forces pas la personne, tu la mets pas devant le fait accompli, que si tu vas la voir et tu lui dis tu veux danser, ben elle peut se sentir gênée et ne pas savoir dire non. En fait c'est aussi ça que ça permet la mirada, et donc ben en fait moi je vais inviter des filles puis je leur dis si tu veux pas danser avec moi tu peux me le dire. Et en fait moi j'aime beaucoup inviter. Et après l'équilibre entre guider et être guidé, ça dépend de mon humeur, de la fatigue, de la musique, des gens qui sont là, s'il y a plus ou moins de gens que je connais pas et avec qui j'ai envie de danser dans un ou l'autre rôle. Enfin, des fois, voilà, ça, y a pas vraiment de... C'est vraiment très différent, en fait, c'est deux rôles très différents. Et après, par rapport à ce qu'on vit dans la danse, ben, en fait, ben, guider, ça, c'est toi qui, en fait, c'est quand même toi qui propose majoritairement ta musicalité, même si tu t'inspires de celle de l'autre, qui propose quand même un vocabulaire dont tu as plus l'habitude, même si en fait chaque danse est différente.
Que la luz es una flor llena de bondad y de canto. El violín su cantar, cascabel su reír y un zorzal su voz. Ella es así. Al cantar quisiera yo pintar tu figura tan risueña, mujer porteña, y decir a quién me quisiera oír al son de esta milonguita. Ella es así.
Toujours à l'écoute de Radio Canu 102.2. Nous sommes dans une émission qui parle de la danse et là plus particulièrement du tango. Alors moi ce que je trouve assez intéressant dans ce que la personne a dit, c'est toute la question autour des rôles et de comment les rôles dans la danse, donc cette danse d'improvisation à deux. Donc on part du principe que pour pouvoir improviser, on se donne des codes. Et là les codes, c'est il y a une personne qui guide et une personne qui est guidée, ou une personne qui guide et une personne qui reçoit et interprète à sa manière la musique. Eh bien, par rapport à ça, du coup, dans la question du guidage à deux, eh bien, c'est verrouillé sur des normes de genre. C'est-à-dire que aux personnes qui guident la responsabilité, le fait d'interpréter la musique. Si on se cogne, c'est la responsabilité de la personne qui guide, et à la personne qui est guidée, le fait de recevoir, d'interpréter d'une manière des directions qui sont données. Moi, j'ai été dans des cours de tango où on nous disait pour guider, c'est simple, c'est comme si vous guidiez une voiture, quoi. Du coup, on n'est vraiment pas sur une question de travail ensemble, parce que pour moi, en fait, être guidé, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, ça demande une réceptivité, et c'est sûr que c'est cette réceptivité que nous, assignées femmes à la naissance, eh bien, on essaye de fabriquer chez nous, cette capacité d'écoute, cette capacité de répondre au tac au tac à des propositions. Et on voit de plus en plus dans plein d'espaces des dynamiques de tango queer naître. Je pense que c'est vraiment une belle initiative. Je pense que ça fait que les codes sont moins rigides, que c'est plus facile de pouvoir inviter, de ne pas présupposer en fonction du genre dans lequel on est, de quel va être notre rôle dans cette danse sociale qu'est le tango. Après, disons que vu que ces rôles sociaux, ils ont été fabriqués vraiment sur des codes de genre qu'on nous a appris depuis la naissance, la capacité de transformation juste par la danse, moi j'y crois, enfin je veux dire, c'est aussi ce que j'ai vécu, mais ça demande aussi un positionnement politique, en fait. Et c'est ce que je trouve extrêmement compliqué dans les dynamiques de danse, c'est que d'un côté il y a la fabrication d'un discours politique, et de l'autre des pratiques corporelles, et du coup ça reproduit cette dichotomie, du coup d'un côté le corps, de l'autre côté l'esprit, ou d'un côté les personnes qui savent danser, de l'autre côté les personnes qui ne savent pas. Dichotomie qui va souvent avec de l'essentialisme, parce que les personnes qui ne savent pas danser, la question d'après c'est pas est-ce que tu peux m'apprendre, alors que dans plein d'autres domaines, eh ben, on s'apprend, on sait pas faire, si on a le goût, si on a l'envie, si ça nous titille, on y va. Il y a des personnes qui savent, il y a des personnes qui ont envie de transmettre des choses qu'elles aiment, qui en parlent avec passion, qui le partagent, comme ce que je suis en train de faire ce soir dans cette émission. Du coup, n'hésitez pas, la prochaine fois que vous aimez un mouvement chez une personne, allez la voir, dites-lui, parlez-en. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait possible d'apprendre, et je pense que c'est vraiment une bonne idée de partager des moments de danse, de partager le plaisir d'interpréter la danse ensemble, que ça soit à deux, à quatre, en boum, enfin, on s'en fout, quoi. Voilà. Alors moi, ma recherche, mais j'ai pas vraiment réussi à trouver de réponse, donc je vais vous parler de ma question. Alors ma question est, en fait, donc la danse est un univers qui est axé de féminin, c'est-à-dire que la plupart du temps il y a des femmes qui y participent, et du coup quelle est notre visibilité à nous lesbiennes, parce que bon, il y a un moment où c'était pas possible de danser entre femmes, mais là on commence à être dans un monde où c'est possible, où c'est même quelque chose de l'ordre d'une pratique qui est, disons, un peu obligatoire, parce que sinon on ne danse pas, sinon on attend. Et c'est très drôle, parce que dans mon cours de danse, à chaque fois qu'il y a il manque de personnes pour guider, et bien les personnes qui sont guidées, donc elles attendent, mais par contre, quand ça manque de personnes qui sont guidées, là, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai commencé mon cours en disant, moi, ce que je veux dans le Lindy Hop, c'est apprendre à guider. Ça sera ça mon rôle, ça sera ça que j'apprendrai. Et la fois où il n'y avait pas assez de personnes à guider, le prof est venu danser avec moi. Et je pense que c'est le fait que moi, j'ai maintenu cette position de dire, moi, je viens là, c'est pas mon rôle, c'est pas censé être mon rôle, mais en fait, c'est ce que j'ai envie d'apprendre. Et que ça a été vu comme tout à fait possible et sans aucun souci, déjà que je suis restée dans ce cours. Et ensuite, que ça a pu permettre ce truc-là. Et ensuite, comme les rôles tournent, le prof a dansé avec d'autres gars. Oui, parce qu'en fait, quand deux hommes dansent ensemble, et c'est là qu'il y a quelque chose qui choque la morale, c'est là qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la subversion. Alors que quand deux femmes dansent ensemble, vu qu'on est plutôt invisible en tant que lesbienne, il n'y a pas du tout ce petit tilt ou cet imaginaire qu'à un moment, c'est un partage de sensualité qu'on fait. Et moi, j'ai vu plein de personnes danser à deux et parler pendant qu'elle dansait. Et moi, je trouve ça, c'est dommage, parce que l'un des intérêts de la danse, c'est de pouvoir communiquer sans les mots. Et on a vraiment besoin de communiquer sans les mots, quoi. Et la danse le permet. Moi, je sais que c'est ça que je cherche, et je trouve ça dommage de pas vraiment profiter de cet instant de partage, de danse, de pas y être entièrement, de continuer à devoir passer par les mots, alors qu'on a un médium qui est nos corps, qui est la musique, qui est le rythme. et de ne pas vraiment profiter de cette dynamique-là. Alors, j'ai pas trouvé de copine qui voulait bien s'outer dans leur pratique de danse par rapport à la danse à deux, mais j'ai trouvé une copine qui voulait bien nous parler de la lap dance. Je vous laisse écouter.
Oops, I did it again.
Alors, la lap dance, en tout cas, je pense que le démarrage de l'atelier qu'on fait, ça vient un peu détourner des codes de cette danse qui est très hétéronormée à la base. Enfin, l'imaginaire qu'on peut avoir de la lap dance, c'est une meuf cis hétéro qui est dans les codes de séduction de la meuf cis hétéro qui fait une danse hyper sexuelle, sexualisée, érotique dans les codes hétéronormés de ce que c'est que l'érotisme. Un gars un peu quelconque, un mec cis hétéro dans les codes du mec cis hétéro qui est là, qui regarde et la danse elle est pour lui. Voilà. Et lap dance, c'est une danse sur les genoux. Du coup, il y a un truc aussi de jouer avec le contact, etc. C'est des ateliers lap dance que j'ai animés plusieurs fois dans des cadres de play party BDSM ou d'ateliers BDSM. Et ça vient d'un camarade. Bon, je sais pas s'il a envie qu'on parle de lui à la radio, du coup, voilà. Mais en tout cas, qui a mis en place des ateliers de lap dance féministe à destination des meufs gouines trans, des trans pédégouines, voilà. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Bah, je peux en venir un peu plus à comment l'atelier est construit. En tout cas, moi j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à le vivre cet atelier et à le faire vivre dans des cadres où on est des personnes qui n'avons pas l'habitude d'être dans des codes de l'érotisme, surtout pas hétérocentrés ou hétéronormatifs, et de s'amuser à faire une lap dance à quelqu'un. Par exemple sur des codes de genre, la lap dance c'est un truc de jeu avec les hanches, et ça on peut se réapproprier ces codes là. Par exemple il y a des personnes après l'atelier qui disaient ah oui, alors je m'imaginais pas qu'avec des codes de masculinité on pouvait faire une lap dance à quelqu'un et rendre hyper érotique le striptease, ce jeu du corps qui vient chauffer l'autre, les trucs comme ça. Du coup, par exemple, dans la lap dance, j'aime bien les trucs un peu acrobatiques que j'oserais pas faire autrement, mais par exemple d'être allongé au sol et de mettre mes pieds sur les jambes de l'autre, sur les épaules de l'autre, et puis de faire des trucs comme ça là parce que le dispositif est un peu spectaculaire, et ben ça permet de se rouler par terre et de faire un peu n'importe quoi. Ça j'aime bien, voilà, par exemple. Mais ouais, et c'est des mouvements qu'on montre en atelier par exemple. Mais ouais, moi je sais que dès que ça peut être un peu acrobatique et puis de c'est bon, c'est pour me la péter quoi, mais du coup ça fait des situations un petit peu drôles quoi. Voilà. Moi ça, c'est quand même assez rare que je piège les gens dans ce truc là, voilà.
Okay.
Ce qui n'empêche pas les gens de rougir à fond après, d'être assis comme ça et d'être au milieu des gens, mais voilà. C'est encore autre chose.
You see, my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways?
Oui, et puis moi quand je dis ah, je mets la chaise où la personne est assise, et je viens, en fait ça se passe rarement comme ça. Enfin, pour plus de détails, en plus sur la plupart des trucs, je passe beaucoup par le verbal. Du coup, ça va être une petite blague dans un coin de ah oui, bah, si tu veux, je te fais une lap dance. Et puis, j'attends la réaction. Et puis, si la personne elle dit ah ouais, pas cap, et ben bah, ok, si, je te mets la chaise au milieu du dance floor et puis je fais une lap dance, quoi. Des choses comme ça. Eh ben oui, parce que quand on est en train de faire la fête avec des gens, à des moments, ça m'arrive de faire des petits cadeaux à des gens comme ça, ou des petits shows de « Tiens, assis-toi au milieu du dance floor et puis je te fais une lap dance !» Ouais, non, c'est sûr. C'était ça ta question ?
Ouais, c'était ma question.
Ouais, je veux bien rajouter. Il y a plein de trucs que j'aurais pu rajouter, mais en tout cas, parce que j'ai pas vraiment répondu à ta question de est-ce que c'est pour deux personnes. En tout cas, comment je le conçois, c'est pas forcément pour de la séduction. On peut jouer avec des codes de l'érotisme sans être dans des rapports de séduction. Ça se passe pas forcément à deux, mais ça peut être à plus. Voilà, faire ça dans des cadres où c'est public, collectif, pour l'anniversaire de quelqu'un, où ben c'est rigolo, quoi, on s'amuse. Et moi, ce que j'aime, en tout cas après dans la perspective de l'atelier, c'est que les invitations, elles sont aussi souvent données à... Ben, en fait, voilà, nos corps, quand on est un peu freaks là, ou butch, on a été la moche du lycée, la grosse du collège, enfin, et en fait, bah, ces corps, ils sont fabuleux, et on peut tout détourner pour en faire un truc hyper classe, quoi, où on se marre et où c'est chaud et tout ça, quoi, voilà.
Alors prenons-le au mot et bougeons ces corps fabuleux, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous permet de nous rencontrer, parce que ça permet d'arrêter de parler, parce que ça permet d'échanger du plaisir qui est dans quelque chose de corporel et qui est dans quelque chose qui n'est pas du sexe, qui est juste du plaisir d'être là, d'habiter son corps. Et comme ça, je pense qu'on fait la nique à des décennies de séparation entre le corps et l'esprit. On est là, on est beau, on est fabuleux, et allons-y, dansons. Alors c'est la fin de l'émission et on va se quitter sur un dernier morceau qui s'appelle Lavender Song. C'est un morceau des années 20 qui était dans les cabarets berlinois, et du coup des cabarets queer. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais je pense qu'on a plein de grand-mères là-dedans, plein de personnes qui ont expérimenté des trucs dans la danse à deux, dans la danse seule, qui ont fait de la visibilité de queer à des époques vraiment différentes, et ça sera peut-être l'objet d'une autre émission de radio. Bonne écoute.
What makes them think they have the right to say what God considers vice? What makes them think they have the right to keep us out of paradise? They make our lives hell here on earth, poisoning us with guilt and shame. If we resist, prison awaits, so our love does not spread. speak its name. The crime is when love must hide. From now on we'll love with pride. We're not afraid to be queer and different. If that means hell, well, hell, we'll take the chance. They are so straight, uptight, upright and rigid. They march in lockstep, we prefer to dance. We see a world of romance and of pleasure. All they can see is sheer banality. Lavender nights, our greatest treasure. Where we can be just who we want to be. Round us all up, send us away. That's what you'd really like to do. But we're too strong, proud, unafraid. In fact, we almost pity you. You act from fear, why should that be? What is it that you're frightened of? The way that we dress, the way that we meet, the fact that you cannot destroy our love. We're going to win our rights to lavender days and nights. We're not afraid to be queer and different. If that means hell, well, hell, we'll take the chance. They're all so straight, uptight, upright and rigid. They march in lockstep, we prefer to dance. We see a world of romance and of pleasure. All they can see is sheer banality. Lavender nights, our greatest treasure. Where we can be just who we want to be. Lavender.